Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous commençons une toute nouvelle série aujourd'hui intitulée « Est-ce que Jésus-Christ est mort uniquement par les Romains et les Juifs ?» C'est une question sérieuse. Mais pour commencer, la Sainte Bible, dans Ésaïe, au chapitre 53, versets 3 à 10, dit ceci. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Quoique il n'y ait point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ésaïe 53, versets 3 à 10. Il y a une jeune fille d'autrefois qui s'appelait Francine. Elle est devenue une femme mariée qui connaît par cœur ce passage et elle l'oubliera pas jusqu'à la fin de sa vie pour des raisons très personnelles. Chers amis, on a toujours pensé, et moi le premier, que c'est les Juifs et les Romains qui ont crucifié Jésus. Étant donné que nous étudions souvent, pas correctement et très minutieusement les Saintes Écritures, je parle aussi pour moi surtout, nous n'avons pas compris que les humains juifs ou romains ont été que les instruments abominables et monstrueux de Satan, exactement comme c'est le cas de nos jours, et ceci jusqu'à la fin de cette dispensation actuelle. Voyons donc tout d'abord, afin de mieux comprendre. Jésus-Christ, la crucifixion et les camps de concentration, qu'est-ce qu'ils ont en commun? En ce 21e siècle, la question la plus importante est de savoir pourquoi Jésus-Christ a dû tellement souffrir. Mais nous ne parviendrons jamais à découvrir toute cette importance, si nous ne remontons pas plus haut, oui, beaucoup plus haut, que la cause humaine. La réponse ultime à l'interrogation « Qui a crucifié Jésus ? Est-ce Dieu ?» C'est une pensée stupéfiante. Jésus est son Fils bien-aimé. Ses souffrances dépassent l'imagination. Pourtant, voyez-vous, tout le message biblique aboutit à cette conclusion. Le prophète Ésaïe déclare « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Ésaïe 53, verset 10. Le Nouveau Testament ajoute « Dieu n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Romains, chapitre 8, verset 32. C'est Jésus-Christ que Dieu a destiné à être, par son sang précieux, pour tous ceux qui croiraient, la victime propitiatoire. Romains, chapitre 3, verset 25. Comment rattacher cet acte divin aux actions horribles des hommes qui ont mis Jésus à mort? La Sainte Bible y répond dans une des premières prières chrétiennes. Il est dit « Contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Actes chapitre 4, versets 27 et 28. La profondeur et l'étendue de cette souveraineté divine nous coupe le souffle, mais elle est aussi la clé de notre salut. Dieu l'avait planifié ainsi, et par la main d'hommes méchants, le monde a bénéficié d'un bien immense. Pour paraphraser une parole de la Torah, les hommes avaient conçu le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Genèse, chapitre 50, verset 20. Puisque Dieu l'a transformé en bien, nous devons dépasser la cause humaine pour atteindre l'intention divine. L'essentiel dans la mort de Jésus, elle ne réside pas dans la cause, mais dans son dessein, dans sa signification. L'homme avait ses raisons de vouloir la disparition de Jésus, mais seul Dieu était capable de faire concourir la mort de son Fils bien-aimé au bien de ce monde. En fait, les desseins que Dieu a conçus pour le monde par la mort de son Fils sont insondables. Dans ce CD d'aujourd'hui, je ne fais que amorcer la réflexion en proposant aux auditeurs et auditrices 50 raisons derrière la mort de Jésus-Christ. Mon but est surtout de laisser la Sainte Bible parler d'elle-même. Elle nous fait entendre la voix de Dieu. J'espère que ces indices encourageront les auditeurs et les auditrices de connaître toujours davantage le dessein sublime de Dieu dans la mort de son Fils bien-aimé. Chers amis, que signifie le mot « passion » ? Eh bien, ce mot évoque pour nous au moins quatre choses, c'est-à-dire un sentiment amoureux, le zèle dans l'accomplissement d'une tâche, un oratorio de Jean-Sébastien Bach et les souffrances de Jésus-Christ. Ce terme vient d'un mot latin qui signifie « souffrance ». Je l'utiliserai dans ce sens-là. Il désignera donc les souffrances et la mort de Jésus-Christ. Mais ce terme se rattache évidemment aussi à toutes les autres passions. Il anoblit l'amour, inspire la musique et soutient la défense des grandes causes dans ce monde. Chers amis, en quoi la passion de Jésus-Christ est-elle unique ? Pourquoi les souffrances et la mort d'un homme condamné comme prétendant au trône romain ont-elles donné à des hommes la capacité de souffrir et d'aimer au point de transformer l'Empire romain au cours des trois siècles qui les ont suivis ? Pourquoi continue-t-elle de façonner le monde encore aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que la passion de Jésus fut absolument unique. Sa résurrection d'entre les morts, 3 jours plus tard, fut une œuvre par laquelle Dieu prouvait, enfin il prouvait tout ce que la mort de son Fils bien-aimé avait accompli. La passion de Jésus fut donc unique parce qu'il était plus qu'un simple homme. Comme le synode de Nicée le déclare, il est vrai Dieu de vrai Dieu. Je répète, il est vrai Dieu de vrai Dieu. Tel est donc le témoignage de ceux qui l'ont connu et à qui il a confié le soin d'expliquer qui il est. L'apôtre Jean identifie Jésus-Christ à la parole et parle de lui en ces termes. Au commencement était la Sainte Parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Saint Jean, chapitre 1, verset 1 à 3, et le verset 14. Je répète parce que c'est important. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Ajoutons à sa divinité le fait qu'il était totalement innocent des souffrances qu'on lui a infligées. Il n'était pas seulement innocent de l'accusation et des blasphèmes portés contre lui, mais il était également de tout péché innocent. L'un de ses disciples les plus proches écrit « Il n'a point commis de péché et dans sa bouche, il ne s'est point trouvé de fraude. » C'est Pierre, dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 22. Son unicité se complète donc d'une autre caractéristique. Il a affronté sa propre mort avec une autorité absolue. L'une des déclarations les plus remarquables de Jésus concernant sa mort et concernant sa résurrection, Jésus a dit « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai donc le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est donc l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Je répète, Jésus a dit « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai donc le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Saint Jean, chapitre 10, versets 17 et 18. La question de savoir qui a tué Jésus est accessoire. Il avait décidé de mourir. Son Père le voulait et Jésus l'a accepté et il l'a voulu aussi. Donc la résurrection de Jésus-Christ certifie sa passion. À cause de la passion sans pareil de Jésus, Dieu le ressuscita d'entre les morts. Ce miracle se produit trois jours après la crucifixion. Jésus est sorti du tombeau tôt le dimanche matin. Il a apparu plusieurs fois à ses disciples pendant 40 jours avant son ascension au ciel. Actes chapitre 1, verset 3. Les disciples furent lents à comprendre ce qui s'était passé. Ce n'étaient pas des gens simplets et crédules, pas du tout, mais c'étaient des commerçants avisés et réalistes. Ils savaient qu'on ne revient pas à la vie une fois qu'on est mort. À un certain moment, Jésus insista pour manger même du poisson avec eux, afin de leur prouver, vous avez compris, pour leur prouver qu'il n'était pas un fantôme, pas quelque chose d'irréel. Notez Saint-Luc chapitre 24, versets 39 à 43. Dans son cas, il ne s'agissait donc pas de la réanimation d'une personne qui est morte en mort apparente, par le SAMU par exemple. Sa résurrection était celle du Dieu homme et son entrée dans une vie nouvelle indestructible. L'Église primitive l'acclama comme étant le Seigneur du ciel et de la terre. Elle confessa, il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux chapitre 1, verset 3. Et je répète parce que c'est important. Il a fait la purification des péchés, Jésus, et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux chapitre 1, verset 3. Jésus avait donc achevé l'œuvre que Dieu lui avait confié et sa résurrection prouvait que Dieu était satisfait. Ce CD d'aujourd'hui traite de ce que la passion de Christ a accompli pour le monde. Tout d'abord, essayons de comprendre la passion de Jésus-Christ et les terribles souffrances de Auschwitz. Quel horrible drame que le récit de la passion de Jésus-Christ a pu engendrer un antisémitisme aussi violent contre les Juifs. Et aujourd'hui, même si vous me dites que c'est pas vrai, ça recommence. Nous, chrétiens, avons honte de ce que bon nombre de nos ancêtres n'ont pas agi dans l'esprit de Jésus-Christ. Il ne fait aucun doute que ce mal se niche aussi dans notre âme. La véritable foi biblique, qui est radicalement différente de la culture occidentale et ne se trouve peut-être même pas dans bon nombre d'églises chrétiennes, il rejette la propagation de sa cause par la violence. Il est dit dans Saint Jean chapitre 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » C'est ce qu'a dit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, eh bien mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Oui, tous les anges du ciel, des myriades, auraient combattu pour Jésus. Ça, vous pouvez me croire. Le chemin de la croix, c'est donc celui de la souffrance. Les chrétiens sont appelés à mourir, mais pas à tuer. Ce n'est pas ce que Dieu veut, que nous prenions le train ou l'avion, si c'est beaucoup plus loin, pour aller jusqu'à Bâle, pour être mis à mort. Oui, les chrétiens sont appelés à mourir, mais pas à tuer, afin de montrer au monde à quel point Jésus-Christ les aime. Bien sûr, il n'est pas drôle de souffrir et de souffrir jusqu'à la mort. C'est quelque chose de terrible. Et la tentation est forte de pas recourir à des moyens pour être tué. Autant acheter un flingue et se mettre une balle dans la tête. C'est la même chose. Voyez-vous, aujourd'hui, cet amour humble et courageux, cela honore Jésus et le présente au monde comme étant le seul chemin de salut, le seul chemin de salut vers Dieu le Père. Et cela pour tous les peuples, que vous soyez bouddhistes, mahométans ou n'importe quoi, eh bien, croyez-moi, nul chemin, il n'y en a aucun autre, il n'y en a aucun autre que le chemin de salut vers Dieu le Père pour tous les peuples par Jésus. Jésus-Christ, il dit, écoutez bien ce qu'il dit dans Saint Jean chapitre 14 verset 6, et cela est vrai pour toutes les religions de ce monde. Il dit, je suis moi le chemin. J'ai quelques versions allemandes qui disent, je suis moi le seul chemin. Je suis moi la vérité. Je suis moi la vie. Et nul ne vient au Père, à Dieu le Père, que par moi, c'est-à-dire par Jésus. Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Mais soyons absolument clairs, ce n'est pas chrétien d'humilier, de mépriser, de railler, de se moquer ou de persécuter par des remarques blessantes, par des pogroms, par des croisades ou par des camps de concentration. Ces attitudes et ces faits étaient et sont encore une simple et horrible désobéissance à Jésus-Christ. Or Jésus-Christ pria sur la croix, il a dit, selon Saint Luc chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas du tout ce qu'ils font. » Sachez, chers amis, que la passion de Jésus-Christ est l'événement le plus important de l'histoire. C'est le thème politique et personnel le plus explosif du XXIe siècle. Nier, tout simplement, que Jésus-Christ a été crucifié ressemble au fait de nier la réalité de l'Holocauste juif. C'est ça. C'est de renier simplement l'Holocauste, tout simplement. Voyez-vous, pour certains, la crucifixion est beaucoup trop horrible pour en parler. Et pour d'autres, il s'agit d'une conspiration très élaborée pour provoquer un sentiment religieux et de sympathie. Mais voyez-vous, ceux qui la nient, ils vivent un monde imaginaire. Pas du tout la réalité, c'est du virtuel, car il est un fait historique absolu que Jésus-Christ a enduré des souffrances indicibles et il est mort, tout comme les Juifs lors des persécutions du XXe siècle, et qu'ils ont été brûlés vifs, même les enfants. Je dis bien le XXe siècle, parce que nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Je ne suis donc pas le premier à tracer un parallèle entre le calvaire et les camps de concentration, entre les souffrances de Jésus-Christ et celles du peuple juif. Dans son livre formidable en allemand, Die Nacht, la nuit, un ouvrage d'une profonde émotion qui détruit toute prétention à innocence et qui inspire le respect. Le célèbre Elie Wiesel, il parle de son expérience d'adolescent avec son père dans les camps de concentration de Auschwitz, de Buna et de Buchenwald. Ils étaient, au pluriel, constamment sous la menace de la sélection. Les faibles étaient pris, ils étaient brûlés, souvent brûlés vifs, dans les fours crématoires. Une fois, une seule, Elie Wiesel a fait un lien entre le calvaire et les camps. Et là, il parle d'un vieux rabbin qui s'appelait Akriba Drummer. Akriba Drummer nous a quittés. Il était victime de la sélection. Akriba Drummer déambulait ces derniers temps. Il était perdu parmi nous. Il avait les yeux vitreux, contenant à chacun. Il a raconté son extrême faiblesse. Il a dit, souvent, d'une voix à peine audible, « Je n'en peux vraiment plus. C'est fini. Impossible de remonter son moral. Il n'écoutait même pas ce qu'on lui disait. Il ne faisait que répéter que tout était fini pour lui, qu'il ne pouvait plus soutenir le combat, qu'il n'avait plus la force ni la foi. Ses yeux se sont vidés d'un seul coup. Il n'était plus que deux plaies ouvertes, on peut dire deux puits de terreur. Elie Wiesel a fait alors ce commentaire provocateur. Pauvre Akriba Drummer, s'il avait pu continuer à croire en Dieu, avoir dans ce calvaire une épreuve de Dieu, il n'aurait pas été emporté par la sélection. Je ne prends pas le risque de mettre des paroles dans la bouche de Elie Wiesel. Je ne suis pas sûr de ce qu'il voulait vraiment dire. Mais sa remarque soulève tout de même une question. Pourquoi lier le calvaire au camp de concentration? Je ne la pose pas pour connaître la raison ou pour blâmer. Je cherche simplement une signification et de l'espoir. Se pourrait-il que la souffrance juive trouve non sa cause, mais son sens final dans la souffrance de Jésus-Christ? Pourrait-on être amené à penser, non pas que la passion du Christ a abouti à Auschwitz, mais que les souffrances de Auschwitz ont débouché sur la compréhension de la passion de Jésus-Christ? Le lien entre le calvaire et les camps est-il celui d'une empathie insondable? Après tout, seul Jésus peut savoir ce qui s'est réellement passé durant cette seule nuit de la souffrance des Juifs. Et peut-être qu'une génération de Juifs dont les grands-parents ont connu leur propre crucifixion inouïe pourront, comme personne d'autre, comprendre ce qui est arrivé au Fils de Dieu à Golgotha. Je laisse donc cette question ouverte, car je ne connais pas toutes les réponses. Mais je sais tout de même une chose. Les gens de l'Occident dont nous sommes soi-disant chrétiens, qui ont dressé les camps, ne connaissaient pas l'amour, pas du tout, je crois, qui a poussé Jésus vers la croix. Ils n'ont donc jamais connu Jésus-Christ qui, au lieu de tuer pour sauver une culture, il est mort pour sauver le monde. Mais certains chrétiens authentiques, ceux-là, ont vu la signification de la passion de Jésus-Christ et ils ont été brisés et humiliés par ses souffrances. Se pourrait-il que ceux-là, mieux que quiconque, soient en mesure de voir et au moins de commencer à sonder la souffrance du peuple juif? Quelle ironie que des chrétiens puissent être antisémites, comme de nos jours ça recommence. Jésus et tous ses premiers disciples étaient juifs, des gens de tous les groupes humains établis sur le sol de la Palestine, et pas seulement des juifs, ont été actifs dans la crucifixion de Jésus. Et des gens de tous les groupes, y compris des juifs, s'y sont opposés. Dieu lui-même était l'acteur principal dans la mort de son fils. Oh oui, si bien que la grande question n'est pas de savoir quels sont les hommes responsables de la mort de Jésus, mais ce que celle-ci a apporté aux hommes, aux juifs, aux musulmans, aux hindous, aux bouddhistes et aux matérialistes sans religion, bref, à tous les êtres humains de partout. Tout compte fait, la question la plus cruciale à se poser, ce n'est pas pourquoi Jésus-Christ est-il mort, c'est-à-dire la recherche d'une cause, mais pourquoi est-il mort? En deux mots, autrement dit, la recherche d'un sens, la recherche d'un dessein. Qu'est-ce que Jésus-Christ a accompli par sa passion? Pourquoi devait-il tellement souffrir? Quelle œuvre sublime la croix a-t-elle été opérée pour le monde? Voilà à quoi s'intéresse la suite de ce CD d'aujourd'hui. J'ai collecté dans le Nouveau Testament 50 raisons aux souffrances et à la mort de Jésus-Christ. Non pas 50 causes, mais 50 buts. Il est donc une question infiniment plus importante que celle de savoir qui a tué Jésus. Qu'est-ce que Dieu a accompli en faveur des pécheurs comme moi, comme nous tous, en envoyant son fils à la mort? C'est à cela, oui, à cela, que nous allons répondre. Chers amis, on confond souvent la foi biblique à la religiosité, ou même on l'inclut dans le statut national de certains peuples. En conséquence, beaucoup de gens, en lisant ce « nous », comprennent « moi », c'est moi, sur la simple base qu'ils appartiennent à une nation ou à une culture particulière, ou parce qu'ils vont à l'église le dimanche matin et sont religieux, ou sont peut-être d'une moralité plus ou moins acceptable. Or, il convient de se rappeler que la plupart du Nouveau Testament s'adressait à l'origine à des croyants et parle de l'expérience de croyants authentiques. Il n'est donc pas automatique que tous les auditeurs et toutes les auditrices de ce CD d'aujourd'hui soient inclus dans le « nous » dont nous parlons maintenant. En effet, les personnes que ce pronom désigne sont-elles qui parviennent à la foi en Jésus-Christ grâce à l'opération du Saint-Esprit? Le texte est souvent très clair et défini, mais cette précision s'impose en raison du flou qui prévaut actuellement dans notre société. Cela veut-il dire que ce CD d'aujourd'hui ne s'adresse que aux chrétiens? Quelqu'un qui recherche vraiment la voix du salut. Ne doit-il pas l'écouter? Bien au contraire, chers amis, il ou elle devrait écouter ce genre de CD. Car quel est le grand besoin de celui, de celle qui ne connaît pas encore par expérience le salut que procure Jésus-Christ? C'est de entendre l'appel de Jésus-Christ et c'est de y répondre. C'est donc exactement ce que je cherche dans ce CD, de faire entendre la voix du berger, Dieu, pour que ces brebis que nous sommes puissent le suivre et qu'ils sortent de leur égarement ou qu'ils approfondissent leur communion avec ce merveilleux Seigneur. Il est cependant confirmé par l'histoire et par la révélation biblique que le plus grand obstacle à une relation vivante et salvatrice avec Jésus-Christ, c'est la conviction erronée qu'on est déjà en règle avec Dieu, bien que n'étant pas passé par Jésus-Christ. Si quelqu'un pense qu'il peut être sauvé pour le ciel sans passer par Jésus-Christ, il se trompe. Et il faut pour cela lire attentivement l'Évangile, le méditer et prier. C'est pourquoi, à l'écoute de ces CD, je vous invite à éprouver votre vocation et votre élection. Il serait désastreux de se tromper dans un domaine aussi crucial. Donc demain, mes chers amis, si Dieu me le permet, nous commencerons étape par étape à étudier les 50 raisons pourquoi Jésus doit mourir. À demain matin, donc, Dieu voulant. Pour l'instant, j'aimerais vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné pour votre encouragement et pour votre édification personnelle. Écoutez bien. Ô bienheureuse demeure de la cité céleste, jour éclatant de l'éternité, que la nuit n'obscurcit jamais et que la vérité souveraine éclaire perpétuellement de ses rayons, jour immuable de joie et de repos que nulle vicissitude ne trouble. Jésus-Christ, lui, il brille de son amour pour tous les saints dans son éternelle splendeur. Mais nous, voyageurs sur la terre, nous ne le voyons que de loin, comme à travers un voile. Les citoyens du ciel en connaissent les délices, mais les fils d'Ève, encore exilés, gémissent sur l'amertume et l'ennui de la vie présente. Les jours d'ici-bas sont courts et mauvais. Ils sont pleins de douleur et d'angoisse. L'homme est souillé de beaucoup de péchés, engagé dans beaucoup de passions, agité par mille craintes, embarrassé de mille soins, emporté ça et là par la curiosité, séduit par une foule de chimères, environné d'erreurs, brisé de travaux, accablé de tentations et, comment on peut dire, tourmenté carrément par la pauvreté. Oh oui! Quand viendra la fin de ces maux? Quand serai-je délivré de la misérable servitude des vices? Quand me souviendrai-je, Seigneur, de toi seul? Quand goûterai-je en toi une pleine joie? Quand, dégagé de toute entrave, jouirai-je d'une véritable liberté, désormais exempt de toute peine et du corps et de l'esprit. Tant posséderai-je une paix solide, assurée, inaltérable, paix au-dedans et au-dehors, paix affermie de toutes parts, ô mon Sauveur et Seigneur, tant me sera-t-il donné de te voir, de te contempler, la gloire de ton règne, quand me seras-tu tout et en toute chose, quand serai-je avec toi dans le royaume que tu as préparé de toute éternité à tes élus. J'ai été délaissé, pauvre exilé, en une terre ennemie où il y a guerre continuelle et de grandes infortunes. Console, Seigneur, mon exil, ô adoucis l'angoisse de mon cœur, car il soupire après toi de toute l'ardeur de ses désirs, car tout ce que le monde m'offre ici-bas pour me consoler me pèse. Viens donc, Seigneur, et délivre-moi. Amen. Et maintenant, prions ensemble. Prions. Éternel Dieu, qui est le seul Dieu, le seul qui est digne de recevoir notre adoration et notre prière, nous te rendons grâce, nous te louons pour ta miséricordieuse révélation, pour toutes les surnaturelles démarches de salut que nous avons contemplées jusqu'ici. Mais nous te remercions spécialement, ô Dieu, pour t'être manifesté en Jésus-Christ comme l'éternel amour et comme notre Père céleste. Oui, tu nous as donné la certitude par le témoignage de ton Saint-Esprit. Ô grave dans nos cœurs le message de Jésus et son commandement d'amour pour toi et pour nos frères et sœurs dans le monde. Accorde-nous de regarder cette révélation comme notre science la plus haute et notre trésor le plus précieux, d'en bien saisir la réalité signification, d'en assimiler pleinement le contenu, d'y puiser la consolation et la force, et d'en laisser agir sur notre vie les saintes exigences. Garde-nous, ô Dieu, et la chrétienté toute entière, dans la connaissance de la vérité et dans l'obéissance à la vérité, pour que ton règne arrive et que l'œuvre de ton royaume puisse s'accomplir. Amen. Amen. Et j'aimerais maintenant vous transmettre un ou deux chants d'un lointain passé. 1952, j'avais enregistré cela avec un appareil à bande. Et bien entendu, après avoir transposé ces bandes sur des cassettes tout d'abord, et maintenant sur des CD, ça a perdu parfois de la netteté, et il y a même des ratés. Alors je m'en excuse d'avance auprès de vous. Mais tout de même, une chose est certaine, en écoutant attentivement, même si on ne comprend pas toujours toutes les paroles, on sent que le Saint-Esprit s'y trouve. C'est ça qui est important. Et chers amis, maintenant je vais essayer. Essayons que ça fonctionne. Et à demain matin pour la suite de notre série.
Thank you. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies.
C'est lui qui nous couronne de bonté et de compassion.
C'est lui qui nous fait rajeunir comme l'aigle.
Chantez au Seigneur.